Tu jettes des œufs sur mes fenêtres? T'es malade ou quoi?
Je viens chercher ma robe de bal. Le magasin m'a dit l'avoir donnée à une fausse blonde maigrichonne.
Salut, c'est Chanel Mensier. Tu écoutes Balance ton mot, le podcast qui kick les stéréotypes. Nous sommes le 8 septembre 2004. Je rentre de ma longue journée d'étudiante en CE2. Je fais griller mes tartines pour y faire glisser généreusement du Nutella. M'assois dans mon canapé, allume la télé et découvre One Tree Hill. Waouh, mon Dieu, je pense que ce moment-là, c'est vraiment le point de départ de ma passion série, parce que c'est la découverte, quoi. Je pense que c'est l'une des premières séries que j'ai vues en étant, du coup, bah, je peux même pas dire ado, à 8 ans, genre, en étant genre bébé, et qui m'a suivi comme ça pendant 8 ans. Parce que Les Frères Scott, ça a duré 8 ans. Le dernier épisode a été diffusé sur TF1 en 2012. Genre, j'avais 16 ans. C'est vraiment toute une époque de ma vie. C'est vraiment la série qui m'a accompagnée pendant toute ma construction d'adolescente et de femme, quoi. Alors là, pour le coup, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne nouvelle. Parce que j'ai donc fait la découverte du fameux duo iconique Brooke Davis et Peyton Sawyer. Alors Brooke, c'est la brune, la cheerleader, la fille extravertie, et elle est BFF avec Peyton Sawyer, qui est donc la blonde, très nostalgique, très dark, qui dessine, qui est très très triste. Enfin vraiment, on est sur les deux opposés, deux catégories de femmes hyper distinctes. Donc forcément, tu choisis ton équipe. Perso, j'étais team Brooke Davis, mais factuellement, j'ai grandi avec cette représentation de l'amitié entre, du coup, bah, Brooke et Peyton. Et c'est une sacrée représentation, hein. Toxique serait trop peu fort pour définir leur relation amicale à ces deux besties. Elles ont majoritairement une relation qui est construite autour de la jalousie et la rivalité, et énormément de friction, surtout envers un personnage masculin, Lucas Scott. Voilà, la petite coqueluche du lycée de Tree Hill, le gars super fort au basket, voilà, le petit blond au cœur d'artichaut. On adore Lucas. Et visiblement, il n'y a pas que nous, hein. Il y a aussi Brooke et Peyton qui l'adorent. Et elle l'aime tellement toutes les deux que les trois quarts des frères Scott, c'est Lucas qui date l'une, puis qui date l'autre, mais sans jamais vraiment se séparer de l'une de l'autre, quoi. On est vraiment sur de la tromperie et de la trahison, mais waouh, quoi, c'est hyper anxiogène, hein, très très anxiogène. C'est pas une série qui t'apprend la confiance et la sororité, quoi. Non, c'est vraiment une série qui t'apprend, pense qu'à ta gueule et c'est comme ça que ça marche le monde, quoi, finalement. Et c'est marrant parce que très souvent, ce duo du coup de Brooke et de Peyton est décrit comme étant le friendship goal. Genre littéralement, il y a énormément d'articles ou même de posts sur les réseaux qui présentent du coup ce duo-là comme étant un goal ultime. Alors j'ai vraiment regardé l'intégralité des épisodes des Frères Scott. Je ne souhaite à personne d'avoir une meilleure amie comme aucune des deux, en fait. Enfin, cette relation-là, c'est l'enfer sur Terre. Parce que si, en effet, elles ont pu faire des trucs plutôt sympas l'une pour l'autre, comme lorsque Brooke, elle soutient Peyton à la mort de sa mère, ou quand Peyton, elle est là pour Brooke, quand, justement, à l'inverse, la relation avec sa mère se passe de façon absolument atroce, elles sont là l'une pour l'autre, hein, de temps en temps, soit, mais toujours sur un fond constant de friction et de rivalité. Et ce que ça laisse passer comme message, du coup, c'est que l'amitié fille-fille est forcément quelque chose d'hyper toxique. Que ça ne peut pas juste être chill, dans le respect. Non, parce qu'il n'y a qu'une seule place au sommet, en fait. Et le sommet, en l'occurrence, c'est le cœur de Lucas Scott. Il y a Pauline Legal, c'est une essayiste féministe qui a travaillé sur la notion de représentation des amitiés féminines à l'écran dans les séries, qui explique et qui décortique de façon très très juste toutes ces mécaniques-là, en fait. Et le premier point qu'elle souligne, c'est que pour elle, l'amitié est représentée comme une éternelle course à l'obtention des faveurs masculines. Et franchement, je suis assez d'accord. D'autant plus quand on regarde spécifiquement le personnage, du coup, de Brooke et de Peyton. Et cette représentation-là, je trouve que c'est une vision très patriarcale des femmes et des relations qu'elles peuvent avoir entre elles. Comme si la seule chose qui nous intéressait dans la vie, le goal ultime qu'on pouvait avoir, qui allait déterminer si on avait réussi ou pas notre vie, c'était eh bien, d'atteindre les faveurs masculines, de se mettre en couple, du coup, avec un homme dans une relation de fait très hétérosexuelle, hein, et que quelque part, en tant que meuf, on se réalisait à travers le regard masculin, que c'était un genre de validation ultime. Et encore une fois, quand on regarde bah, du coup, la série Les Vrais Scott, il y a une scène qui spécifiquement me renvoie vraiment à ça. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais Brooke et Lucas s'embrouillent de dingue. Elle veut plus entendre parler de Lucas. Lui, il vient. Ça finit par aller courir sous la pluie d'entre îles.
J'aimerais comprendre pourquoi c'est moi que tu veux. Ça pourrait être Peyton.
Peyton est une fille super, je peux pas le nier. C'est mon ami et c'est aussi ta meilleure amie.
Eh ben, je t'autorise à dire du mal d'elle quand même.
Et t'as cette scène absolument iconique, malheureusement, où Lucas vient quelque part la valider. Et Brooke, bah, elle est contente. Son couple avec Lucas est beaucoup plus important que sa relation amicale de bestie forever avec Peyton. Et là, du coup, vient se mettre en place un deuxième mécanisme patriarcal et hyper male gaze, qui est donc la hiérarchie des relations. Le couple est beaucoup plus important que les relations amicales. Je pense que l'une des raisons de cette hiérarchie, c'est que bah, le couple amical ne permet pas comme ça de prime abord de faire une famille quoi. Et donc bah, d'atteindre ce goal vraiment magistral pour les femmes qui est de devenir mère. Mais ça on en reparlera dans un autre épisode. Et le deuxième truc que Pauline Le Gall elle vient souligner dans son essai, c'est que les femmes semblent être programmées pour ne pas s'entendre. Et que nous, en tant que spectatrices de toutes ces séries, on nous impose de choisir notre camp dans ces relations amicales hyper frictionnelles, plutôt Brooke ou Péluc, là, je sais plus comment on dit, là, les prénoms qui fusionnent. Moi, j'étais Brooke, de toute façon, donc voilà, je n'ai retenu que ce qui m'intéressait. Mais voilà, j'avais vraiment un avis très tranché sur la situation, hein. Oui. Ah oui, c'était un sujet qui m'animait, vraiment, hein. Je détestais Peyton Sawyer. Enfin, vraiment, c'était viscéral. Et ce genre de série, ce genre de représentation vient vraiment mettre en compétition les meufs. Et c'est divisé pour mieux régner. Parce que nous, en tant que spectatrices, on doit miser sur la bonne catégorie, performer au sein de cette catégorie qu'on a choisie pour espérer briller dans les yeux bah, de l'homme. Et ça peut être long, hein. Parce que tu vois, Lucas, il a mis 8 ans. Il y a vraiment eu de quoi alimenter toute cette théorie de rivalité féminine, quoi. Ouais, 8 ans. 8 ans, quand même. Et aujourd'hui, je trouve que la question de la rivalité féminine, elle est de plus en plus remise en question par les fictions. Et notamment, je pense à Wednesday, la série Netflix produite par Tim Burton. Alors, je la trouve particulièrement intéressante parce que, de prime abord, quand tu regardes comme ça le casting, tu vois vraiment que t'as Wednesday d'un côté, la brune très refermée sur elle-même, qui veut voir et parler à personne, qui est très weirdo, et de l'autre côté, on a Enid, la blonde, enfin, les cheveux blancs, mais voilà, dans l'idée, la blonde qui est hyper extravertie, solaire, qui parle à tout le monde. Et elles sont obligées de cohabiter en tant que roommate dans le château, là, à Nevermore. Et si au début, on est tout de suite tombé dans les notions de rivalité féminine, ça a été tout de suite remis en question par le scénario. Et en fait, c'est l'inverse qui a été raconté. On n'en est peut-être pas encore à avoir systématiquement des représentations féminines de meufs hyper sorores, voilà, tout de suite. Mais je trouve que des représentations comme on a, par exemple, dans Wednesday, c'est quelque chose qu'on a de plus en plus souvent. C'est-à-dire, on arrive avec les stéréotypes de base qu'on vient, du coup, déconstruire petit à petit. Et on vient montrer qu'en réalité, les meufs sont tout à fait capables de s'entendre, qu'elles ont pas forcément à se battre pour un gars, que peut-être, oulala, truc de dingue, elles n'aiment pas les garçons. Et c'est vrai qu'en règle générale, j'aime vous parler de séries qui sont niches, qui sont pas forcément vues comme ça super facilement du grand public. Il faut aller fouiller un petit peu dans les catalogues des différentes plateformes. Mais ici, ce que je trouvais particulièrement intéressant avec la série Wednesday, c'est que justement, c'était une série populaire, parce que je trouve que c'est vraiment super important que des séries populaires mettent vraiment en scène cette sororité. Parce que plus c'est populaire, plus c'est vu, et plus ça devient la norme, en fait. Plus ça vient changer les mentalités. Alors, c'est le cas partout, mais factuellement, tous les sujets sont pas traités dans les séries populaires. Là, c'est le cas. Et vraiment, Wednesday, bah, c'est une série que j'aime beaucoup, beaucoup, quoi. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Balance ton mot. Bisous!